Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
Dominique Tenza.
Et à 7h, le journal vous est présenté par Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
Bonjour Dominique, bonjour à tous. Et à la une goutte de sang pour détecter des anticorps, de nouveaux tests disponibles depuis hier en pharmacie. On vous explique tout dans un instant. C'est l'image frappante de la nuit, Donald Trump masqué pour la première fois en public. Le président américain contesté dans sa gestion de la crise du coronavirus. Sortez les maillots floqués, les écharpes de supporters, le foot reprend ses droits dans les tribunes. Et puis se faire plaisir, oui, mais en dépensant moins, le budget vacances des Français à la baisse de 200 euros cette année.
Un nouveau mot bien étrange ce matin dans le vocabulaire des Français en ces temps de Covid-19, le TROD.
C'est le nom donné à ces tests rapides pour savoir si vous avez déjà contracté le coronavirus. Depuis hier, il suffit de vous rendre en pharmacie une goutte de sang pour détecter d'éventuels anticorps. C'est le même principe que la sérologie en laboratoire. Alors concrètement, Marion Ferrer, comment ça va fonctionner ?
Comme pour un test glycémique, il suffira d'une goutte de sang et d'un peu de réactif pour savoir si oui ou non vous avez été en contact avec le coronavirus, si vous avez développé des anticorps. Un test donc réalisable rapidement, mais dont la fiabilité n'est pas sûre à 100%. François Blanchecotte, présidente du syndicat des biologistes, a participé à l'étude remise à la Haute Autorité de Santé.
Les TROD avaient comme inconvénient d'être faits sur sang total. Ils n'ont pas du tout été validés par les centres nationaux de référence sur sang total. Vous diminuez la sensibilité de la détection des anticorps chez les patients. Et on a vu que certaines publications internationales donnaient quasiment 40% de faux résultats.
Ces tests, les TROD, peuvent vous rassurer, mais ils ne vont pas vous révéler si vous êtes toujours porteur du virus et donc contagieux.
C'est une image polaroïde. Ça veut dire qu'on vous prend ce jour-là, au jour J, et vous n'avez pas d'anticorps. Et forcément, 15 jours, 3 semaines plus tard, ça ne veut pas dire que des anticorps ne sont pas présents dans votre sang.
Pour le moment, l'arrêté ne précise ni le prix ni la prise en charge de ces tests. Les professionnels de santé s'inquiètent également de l'éparpillement des malades et rappellent l'importance du suivi médical dans la lutte contre la Covid-19.
Les explications de Marion Ferrer pour RTL. Jean Castex attendu en Guyane. Le Premier ministre se rendra notamment à Cayenne dans le centre de crise interministérielle. 3 hôpitaux ont déclenché la semaine dernière leur plan blanc. Médecins et réservistes ont été envoyés en renfort sur place pour faire face à la flambée des cas. Le pic de l'épidémie n'a toujours pas été atteint. En métropole, cette question, et si le port du masque devenait obligatoire dans les lieux clos comme les cinémas, les supermarchés? C'est ce que réclament des grands noms de la médecine dans une tribune publiée par Le Parisien aujourd'hui en France. Inquiets par le relâchement des Français, ils comprennent, disent-ils, que la tentation de reprendre une vie normale est grande, mais le virus, lui, ne nous oublie pas.
Le masque désormais porté par Donald Trump, image inédite cette nuit.
C'est la toute première fois qu'il apparaît ainsi en public alors que les États-Unis recensent cette nuit 66 000 nouveaux cas de coronavirus. Drôle de scène quand lui et sa horde de conseillers apparaissent tous masqués d'une protection en tissu noir juste après une visite à des militaires dans un hôpital. Décision purement politique ou bien changement de ton? En tout cas, Donald Trump s'était toujours montré très réticent pour appliquer cette recommandation des experts, Philippe Corbet.
Oui, ça faisait des mois qu'il refusait de porter un masque en public et il était imité par une bonne partie de ses sympathisants qui refusent de couvrir leur visage en pensant que c'est un signe de faiblesse ou de politiquement correct. Le masque est devenu ici un objet de controverse politique. Sa gestion de la crise sanitaire a provoqué son décrochage dans les sondages et le virus accélère dans plusieurs États qui ont rouvert précipitamment comme il les encourageait. Cette première sortie masquée dans un hôpital militaire, c'est aussi une façon de détourner l'attention d'un scandale provoqué par sa décision il y a 24 heures, de commuer la peine d'un de ses vieux amis qui devait partir en prison dans quelques jours. Roger Stone, condamné à 40 mois de prison dans des affaires liées à la campagne Trump en 2016, après des investigations du procureur spécial de l'affaire russe, il a été condamné pour avoir menti afin de protéger le président. Stone menaçait de raconter ce qu'il sait sur Donald Trump s'il était envoyé en prison. Selon le sénateur Romney, républicain, donc du parti du président, cette grâce est une corruption historique sans précédent pour un président américain.
Philippe Corbet, correspondant d'RTL aux États-Unis. Et effectivement, selon un sondage publié par la chaîne américaine ABC, les deux tiers des Américains désapprouvent la gestion de la pandémie par Donald Trump et donnent son adversaire Joe Biden favori pour la présidentielle de novembre. Retour en France, à présent, avec cet hommage une semaine après la mort de Mélanie Lémé. Cette gendarme de 25 ans a été tuée, percutée par un chauffard qui refusait de se soumettre à un contrôle routier. Une marche blanche était organisée organisée hier à Aiguillon dans le Lot-et-Garonne. C'est là que travaillait la jeune femme. 2000 personnes ont défilé, déposé des fleurs et applaudi toute la caserne. Parmi eux, Nathalie et ses deux filles qui tenaient à être présentes.
On se devait de lui rendre hommage, aussi bien bon, ma fille qui l'a côtoyé un petit peu. Et nous, en tant que citoyens et en tant que parents, on pense à sa famille, on pense à ses proches. C'est une jeune femme qui ne méritait pas ce qui lui est arrivé.
Ça fait bizarre de se dire qu'elle est morte alors qu'elle est très 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 jeune et elle ne méritait pas ça. Elle cherchait à nous protéger. C'est horrible qu'elle soit morte comme ça. On est une toute petite commune dans un petit département très agricole. Donc je savais qu'il y aurait un peu de monde, mais pas autant que ça. Et je suis très contente. Je pense qu'on lui a très bien rendu hommage à travers cette marche blanche.
Propos recueillis par Pierre Collat pour RTL. Hommage plus officiel à Bayonne pour Philippe Monguillot, avec le déplacement hier du ministre de l'Intérieur qui a rencontré les collègues de ce chauffeur de bus décédé vendredi suite à sa violente agression. Gérald Darmanin promet des mesures pour les chauffeurs de toute la France. Ceux de Bayonne vont reprendre le travail dès demain. Ils avaient exercé leur droit de retrait.
On partira au Canada dans un instant. On marque une pause. Le Canada où des chanteuses brisent le silence et dénoncent du harcèlement. À tout de suite.
RTL Matin. RTL Matin, Dominique Tenza.
Et à 7h08 sur RTL, la suite du journal avec Aude Vernuccio. L'onde de choc au Canada, car le harcèlement sexuel existe aussi entre femmes.
Avec le témoignage frappant d'une chanteuse québécoise, Safia Nolin. Mardi soir, elle raconte sur les réseaux sociaux avoir été harcelée et agressée physiquement par une célèbre animatrice de télévision, Marie-Pierre Morin. Des dizaines de milliers de personnes ont commenté sa publication, provoquant un nouveau phénomène dans la lignée du fameux MeToo. Le récit d'Alexis Gacon sur place.
Le mouvement est parti du témoignage d'une chanteuse pop québécoise, Safia Nolin, qui a affirmé sur Instagram s'être fait mordre la cuisse au cours d'une soirée arrosée par une animatrice de télévision vedette d'ici, qui depuis a reconnu les faits. Dans la foulée, c'est une avalanche de témoignages sur les réseaux sociaux de femmes qui racontent avoir vécu du harcèlement ou des agressions sexuelles de la part de chanteurs. Marie-Pierre Hamel coordonne les spectacles d'un label musical montréalais. Pour elle, ce MeToo de la musique était attendu depuis longtemps.
En musique, ce qui a choqué et qui a attiré beaucoup l'attention, c'est que là, on a des personnalités quand même assez connues qui ont été dénoncés. Le pouvoir, c'est ce qui amène à ces comportements-là. C'est des gens qui pensent qu'on le saura jamais, qui essaient de faire taire d'autres personnes.
Parmi les acteurs du milieu visé, le label de la chanteuse Cœur de Pirate, Dare to Care. Son directeur a admis être complice d'un système qui maintient les victimes de harcèlement dans le silence. Comme d'autres grands noms de la musique d'ici, la chanteuse a donc décidé de ne plus être représentée par ce label. Marie-Pierre Hamel estime que le milieu musical peut se sortir grandi de cette vague.
C'est vraiment plus profond, là. Là, on voit la pointe de l'iceberg. En fait, c'est beaucoup plus gros que ce.
Face au torrent d'allégations, plusieurs chanteurs ont fait leur mea culpa en reconnaissant des comportements déplacés et mis leur carrière sur pause.
Alexis Gacon, correspondant d'RTL au Québec. On passe au sport avec le grand retour du Paris Saint-Germain ce soir. Le club de foot parisien affronte le Havre en match amical. Si l'enjeu sportif n'est pas bien grand, la symbolique, elle, est énorme avec le retour du public en tribune. 5000 personnes maximum autorisées et parmi elles, peut-être, Édouard Philippe, le nouveau maire des Havre.
Des supporters en tribune, on n'avait pas vu ça depuis la mi-mars. Inauguration hier à Gouvieux.
Là aussi un match amical et devant 200 spectateurs. Le FC Chambly affrontait hier en fin d'après-midi Boulogne-sur-Mer. Jamais les Camblisiens n'avaient été privés de terrain aussi longtemps et les supporters attendaient cette rencontre avec impatience. Vous y étiez, Nicolas Burnan.
Assis au premier rang, Martine et Laurent ont enfin retrouvé leur petite tribune. Cela fait 17 semaines que ce couple de supporters attendait ça.
Ne pas voir votre club pendant pas mal de temps, ça fait du bien. J'ai suivi les instructions, j'ai pris mon masque, ma petite bouteille de gel. La liberté de pouvoir vivre un peu plus normalement.
C'est plus gai que d'être derrière sa télé, à regarder, courir derrière le ballon.
Qu'est-ce qui vous a manqué ?
Bah, l'ambiance.
Voilà. À la buvette, les spectateurs achètent les nouvelles écharpes à l'effigie du club. D'autres, comme Victor, refont le match autour d'une bière.
C'est les amis, c'est le partage, terroir du football, ça se passe comme ça, quoi. C'est ce qui fait vivre un territoire, c'est ce qui fait vivre une agglomération. C'est un sport qui rassemble tous les milieux, toutes les classes sociales, et ça se fait plaisir.
Sur le banc de touche, le port du masque est obligatoire, mais impossible d'éviter les contacts physiques sur le terrain. Bruno Luzier est l'entraîneur de Chambly.
Les effectifs sont testés en permanence, les températures sont prises en permanence, encore là à l'arrivée des joueurs. Dès lors que les instances ont décrété que ça y est, ça pouvait reprendre, ça reprend. La population a assez souffert avec cela. Se retrouver autour d'un stade, ça peut faire du bien à tout le monde.
À la fin de la rencontre, pas d'attroupement autour des joueurs pour faire une photo ou demander un autographe. Les supporters ne peuvent que les saluer de loin.
Reportage signé Nicolas Burnan pour RTL, rencontre qui s'est soldée par un nul à un partout. Toujours dans le volet sportif, ne manquez pas l'invité exclusif d'RTL et M6. Sur RTL, rendez-vous précisément entre 18h30 et 19h dans On refait le sport avec Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus. Entretien réalisé par Eric Silvestro et Philippe Sansfourche. Et puis pour terminer ce journal, cette question, plus fourmis ou cigales pour ces vacances d'été, Dominique, Peggy ?
Cigale.
Moi, je suis plus cigale aussi. Ouais.
D'accord. Et ben, d'après un sondage publié par le groupe hôtelier Ciblu, 4 Français sur 10 prévoient, eux, un budget inférieur à l'an dernier. 200 euros de moins. Selon Opinionway, on préfère visiblement garder des sous de côté, comme ces Français que vous avez rencontrés à Arcachon, Juliette Chénion.
Pour Aurélie, employée en mairie, le week-end coûtera 200 euros. Ce seront de courtes vacances, car le budget n'est pas illimité.
Le budget, ça sera plus pour les restaurants, je pense. On n'a pas prévu de faire plus de magasins que ça.
Faire attention, c'est ce qu'avait prévu Amaury, venu de Toulouse avec sa femme et leur petite fille. Ce directeur d'une salle de sport a connu une période creuse à cause du coronavirus, mais difficile de se restreindre une fois sur place.
Là, on va aller faire du bateau. On va aller jusqu'au Cap Ferré. Finalement, on avait dit qu'on allait faire attention, mais voilà, faut savoir se faire plaisir, ça c'est clair.
Vicky, elle, a préféré un budget détendu, de quoi faire 2 repas par jour au restaurant pendant une semaine.
Ayant été vraiment restreinte pendant le confinement, on a décidé que pendant ces vacances-là, on essayait de budgétiser large pour pouvoir se faire le plus plaisir.
Devant le marchand de glace, David fait les comptes de sa semaine passée au camping. 1000 euros pour une famille de 4 personnes. C'est un peu moins que la moyenne française.
Et là, on est parti avec des amis et tout, donc on a partagé les frais, tout ça. C'est vrai que financièrement, c'est un peu plus compliqué quand on a 3 mois de chômage.
La famille repart très contente. Elle a passé la plupart du séjour à la plage. Et ça rappelle David, c'est gratuit.
Effectivement, Juliette Chénion à Arcachon pour RTL.
Merci Aude Vernouchi, on vous retrouve tout à l'heure à 8h.